Nous continuons dans notre série d'études des premiers pas de l'Église primitive à Jérusalem. Nous avions vu déjà ce qu'ils ont fait quand il y avait un problème qui s'est développé, qui n'était pas l'intention de quiconque, hein, c'est seulement il y avait certaines veuves qui ont été négligées, ce n'était pas intentionnel. Et ils ont vite fait le nécessaire pour corriger cela. Et nous avons vu qu'ils ont choisi des diacres, qui veut dire des serviteurs de l'Église. Et ils ont pris des hommes remplis de l'Esprit Saint pour cela. Et ces hommes sont devenus, parmi eux, Étienne, qui est devenu un prédicateur. Aussi Philippe, qui est devenu un évangéliste. Et puis nous avons vu aussi la semaine dernière comment Dieu a agi dans l'Église en prenant ces hommes qui avaient commencé comme diacres, et bien Dieu s'est servi d'eux, hein, pour stimuler l'Église, et des âmes ont été sauvées et l'Église a été encouragée. Ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur peut faire de nous à l'avenir qui importe, hein. Et souvent, quand on va pour l'embauche, je dis qu'est-ce que tu peux faire. C'est pas une question qu'est-ce que tu pourras faire, question qu'est-ce que tu peux faire. Bon, pas grand-chose. Tu sais conduire, tu sais pousser ça, tu sais compter, tu sais. Non, mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est pas ce que tu sais faire, c'est ce que je pourrais t'enseigner. Et donc le potentiel, lui, il le voit et il nous engage en fonction du potentiel qu'il a de nous transformer. Alors ce matin, nous voulons un peu voir comment il a fait une œuvre dans trois hommes différents pour donner une orientation nouvelle à l'Église primitive. Parce que même si l'Église primitive est née dans de bonnes conditions, c'est-à-dire plénitude de l'Esprit de Dieu, prédication de la parole et des milliers d'âmes qui sont sauvées, même s'il y a tout cela, c'est pas pour cela que ça serait parti dans la bonne direction, parce que par exemple la pensée des apôtres, c'était que le salut était pour les juifs seulement et ou pour ceux qui se convertiraient au judaïsme pour y rentrer dans l'Église. Ils pensaient faux et ils pensaient croire juste. Mais imaginez, aujourd'hui, nous, on ne serait pas là. Il faudrait qu'on se convertisse au judaïsme pour rentrer dans l'Église. Et c'est l'Esprit de Dieu, vous savez, ce n'est pas parce que tout va bien et parce que des âmes sont sauvées que ça veut dire que tout ce qu'on fait est juste et bon. Ça veut dire qu'on est entre de bonnes mains et il va faire son œuvre. Donc même dans la préparation de l'Église primitive, il a commencé avec une boule d'argile et puis il a dit « je vais en faire quelque chose ». Hein, donc, et c'est ce qu'il fait de chacun de nous. Donc les trois hommes dont je vais parler sont Pierre qui pensait faux. Il y a Barnabas qui est un lévite de Chypre. Et puis, il y a Saul, qui sera par la suite appelé Paul. Hein, donc, il y a trois hommes qu'il faudra transformer et qu'il faudra coordonner pour qu'on arrive à une église comme celle d'Antioche. Hein. Donc, regardons premièrement Pierre. Pierre, l'apôtre a réformé. Il fallait réformer sa pensée. Après, je partirai sur Barnabas, l'homme à recruter, et puis Saul, l'homme à transformer. Hein, donc d'abord, Pierre, l'apôtre à réformer. Pierre, eh bien, c'est le nom que le Seigneur lui a donné. Hein. Il lui a dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pétros, hein, Pierre. Et donc, par la suite, hein, vous lisez à partir des Actes des Apôtres, on ne l'appelle plus Simon, on l'appelle Pierre. Le nom que Jésus lui a donné. C'est à lui que le Père a révélé de manière directe le fait que Jésus soit le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est lui le premier qui se lève dans les rues de Jérusalem le jour de Pentecôte et qui annonce à la population « Jésus-Christ que vous avez crucifié est ressuscité ». C'est Pierre qui a reçu les clés du royaume des cieux. Et c'est grâce à ces clés qu'il se rendra en Samarie, où des Samaritains ont cru, suite à la prédication de Philippe l'évangéliste, et qu'il imposera les mains et l'Esprit de Dieu viendra sur eux. Donc l'Esprit de Dieu était sur ceux de Jérusalem, la Judée, et ensuite l'Esprit de Dieu était appelé et imposé, c'est-à-dire est descendu sur les Samaritains. Mais le Saint-Esprit voit dans le cœur de Pierre, il y a des choses à transformer dans sa pensée. Il pense faux, même si il veut être parfaitement. Il aimait le Seigneur, on ne pouvait pas l'aimer plus, et il était engagé. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on se trompe pas. Hein. C'est rare où j'ai fait exprès de me perdre. En général, j'étais sincère et je me suis perdu quand même. Hein? Alors, Pierre a cette idée que pour être sauvé, il faut rentrer dans le judaïsme. Et c'est le moyen par lequel on peut être sauvé et revenir à Christ. Même s'il a entendu que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Le judaïsme est le chemin », il a dit « Je suis le chemin ». Nous avons justement dans Actes chapitre 10 et la moitié du chapitre 11 un long passage et l'Esprit de Dieu pousse Luc à aller dans le détail pour raconter le songe ou la vision qu'a eu Pierre qui a commencé cette transformation dans sa tête. Parce que nous savons dans le chapitre 11, il y a Corneille qui est à Césarée. Corneille aime Dieu, prie Dieu, se comporte bien, il a un bon témoignage et tout. Il est prêt à croire. L'ange le sait et l'ange lui dit « Écoute, va voir Pierre, il te dira ce que tu dois croire pour être sauvé. » Corneille et en fait tous les gens de la maison sont prêts à croire. Mais Pierre n'est pas prêt à leur prêcher la bonne nouvelle. C'est ça le problème. Corneille est prêt. Et même quand le jour, l'instant où Pierre mettra les pieds dans la maison de Corneille, Corneille dit, on est tous là, parle, dis-nous ce que Dieu t'a donné. Eux sont prêts. Mais Pierre n'est pas prêt. Et l'Esprit de Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu prend en charge l'éducation spirituelle de Pierre. Et alors qu'il est en haut, sur la terrasse, en train de prier, vous savez, c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de prier. Quand je dis prendre le temps, c'est pas dire 5 minutes, c'est prendre le temps, de temps en temps, de vraiment donner à Dieu du temps. Et dire, c'est pas je prends du temps pour te parler, mais je te donne le temps de me parler et d'agir dans mon cœur. Et Pierre monte sur la terrasse, et apparemment il était là assez longtemps, parce que au début, il n'a pas faim, et à la fin, il a faim. Donc, il a commencé un peu de temps. Bon, pour certains, c'est juste un quart d'heure, mais bon, le temps qu'il commence à avoir faim. Mais, surtout quand on a affaire avec les bébés. Mais, en tous les cas, il est là pendant un temps, et c'est pendant qu'il est là, en train de prier, et à savoir à quoi il pense quand il prie, et tout d'un coup, il a cette vision ce drap qui descend. Et vous savez, il y a un détail important, c'est que dans ce drap, et c'est marqué, il y avait toutes sortes de quadrupèdes, toutes sortes de reptiles, toutes sortes d'oiseaux. Pour que Pierre comprenne bien que ce n'était pas seulement certains païens, mais c'est tous les païens. Il dit, tout ce que tu considères impur, tout ce qui est dans ton esprit est impur, et c'est ça la parole importante. Il lui dit, Acte 10, verset 15, dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et il a mis, et le détail est important, il a toutes sortes de quadrupèdes, toutes sortes de reptiles, toutes sortes d'oiseaux. Tout ce que tu peux, toi en tant que juif, que tu considères comme impur, eh bien, maintenant, il n'est plus, ne parle plus de souillé. Bon, ça, c'est intellectuellement, Pierre reçoit le message, mais bon, le temps que ça rentre dans la pensée, dans les mœurs et dans l'automatisme, bon, il aura de la route à faire, hein, parce que plus tard, il aura même affaire avec Pierre, avec Paul, par rapport à cela. Vous savez, c'est une chose d'entendre une chose, c'est autre chose de vraiment être transformé. Mais il vaut mieux commencer. Mais en tous les cas, Pierre... même s'il ne comprend pas complètement, mais s'il sait que c'est la volonté de Dieu, il le fait quand même. Hein? Heureusement pour lui que quand Jésus lui a dit de jeter le filet dans la mer, dans sa tête, il disait c'est pas possible. Mais Jésus, parce que tu l'as dit, je le fais. Et ça, c'est extraordinaire. Hein? C'est une attitude que nous devons tous avoir. Je ne comprends pas, je ne suis pas convaincu, je sais, c'est pas clair. Mais puisque tu l'as dit, je le fais. Hein, et ça c'est l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. Et Pierre, il arrive chez Corneille, et Corneille lui raconte, parce qu'il y a la partie que Pierre ne connaît pas. Corneille ne sait pas ce que Pierre a subi, et Pierre ne sait pas ce que Corneille a vu. Hein, donc chacun a eu une vision, chacun en fonction de son besoin. Et il arrive là-bas, et Corneille lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui dit, maintenant, nous sommes tous là, parle-nous. Alors Pierre, il a fait ce qu'il fallait faire, et bien il commence à annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je n'ai pas l'habitude, parler à des païens, je ne sais pas, mais bon, le Seigneur m'a dit, hein, il le dira, il a dit, le Seigneur m'a dit, ne considère pas impur ce que j'ai déclaré pur. Alors, bon, je vais parler. Il parle, il est en train de parler, puis, hein, et juste quand il arrive, au détail important que Christ est mort et il est ressuscité, tout d'un coup, l'Esprit Saint descend sur ces hommes de manière à ce qu'il y ait un signe, hein, que ce soit visible. Donc, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue, pas pour que Corneille soit convaincu. Et lui, il était prêt à croire. Corneille, il n'avait aucun besoin, il n'avait pas besoin ni de miracle, ni rien du tout. Lui, il était disposé à croire. Le signe, c'était pour Pierre, et pour les circoncis qui accompagnaient Pierre, qui n'avaient pas eu la vision. Et il voit ça. C'est pas possible. C'est pas normal, mais bon, Dieu se trompe pas. Ils se disent, mais bon, ben, s'ils ont reçu l'Esprit de Dieu comme nous, ben, comme nous à Pentecôte, avec le même signe, eh ben, c'est qu'ils sont sauvés de la même manière. Ben, alors, on va les baptiser. C'est où Dieu, apparemment Dieu va dans ce sens, même si nous on n'a pas l'habitude. Hein. Vous savez, la vie chrétienne, elle est pas commode quand on démarre. Hein. Rien n'est naturel. La vie chrétienne, elle n'est pas naturelle quand on démarre. Mais si à force de la vivre, on rentre dedans, hein, comme toute autre chose. Hein. La première fois que vous avez pris le volant d'une voiture, ben, c'était pas naturel. La première fois que... Tout ce qu'on fait, on l'apprend. Hein. La première fois que j'ai pris un... À mon époque, on prenait la plume et l'encre. Ah, ben, c'était pas naturel non plus hein, d'écrire avec ça. Je ne sais pas si ça le serait aujourd'hui, hein, ça fait trop longtemps. Mais après, ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre, il a eu la vision. Et il doit prêcher, mais il sait dans sa tête aussi. Non seulement que pour lui, ce n'est pas normal, mais il sait qu'il va devoir rendre des comptes à Jérusalem quand il rentre. Ils vont lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il sait qu'il va falloir rendre des comptes. Les autres, ils n'acceptent pas juste comme ça. Mais heureusement qu'il avait du monde avec lui, il y avait des témoins. Et quand ils sont rentrés, ils ont dû quand même expliquer les choses à Jérusalem. Et heureusement que c'était des hommes spirituels qui, quand ils ont entendu tout le récit, eh ben, ils se sont réjouis de ce que Dieu était... aimait aussi le païen. Hein, c'est un message important pour nous aussi, hein, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, ils ont compris que la bonne nouvelle est aussi pour le monde que eux appellent les païens, hein, les autres. Bon, c'est plus comme ça qu'on divise le monde maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça qu'ils le divisaient. Et là, il va y avoir persécution, et il y a des gens qui vont partir dans tous les sens. Mais quand les apôtres de Jérusalem entendront parler que des païens ont cru à Antioche, eh bien, ils ne vont pas aller là-bas pour corriger les disciples, mais ils vont envoyer Barnabas pour les encourager. Il y a une œuvre. Heureusement, hein, parce que heureusement que Dieu a coordonné les choses pour ce que les choses se passent et qu'il y ait l'enseignement et la réformation de la pensée avant que les choses se déclarent à Antioche. Coordination. Oui, c'est pas parfait quand ça démarre, mais Dieu fait son œuvre. Et nous devons faire confiance. Et c'est justement donc que c'est à ce moment-là que vraiment Barnabas commence à avoir un rôle plus important, c'est-à-dire un rôle qui est mentionné ici dans les Actes des Apôtres, en tous les cas. Barnabas, c'est pas son vrai nom, c'est son surnom. Lui, il s'appelait Joseph. Mais c'est les apôtres qui l'ont appelé Barnabas. Ils lui ont donné le surnom, parce que le nom Barnabas veut dire le fils de l'exhortation, le fils de la consolation. C'était un homme qui avait toujours, qui était là pour encourager. C'était quelqu'un qui pouvait toujours, il a une parole qui relève. Et tellement il avait cette capacité qu'on lui a donné le titre, on lui a dit, toi, tu t'appelles Barnabas. Hein, je crois qu'il y a un livre, vous pouvez l'acheter à la Maison de la Bible, qui s'appelle Barnabas, tu m'encourages. Je vous encourage à lire ce livre, hein, d'acheter Barnabas, tu m'encourages. C'est vraiment, c'est lui, Barnabas, c'est le premier qui a vendu un champ et qui a apporté tout l'argent et qui l'a mis placé au pied des apôtres pour subvenir à ceux qui sont dans le besoin. C'est lui le premier qui l'a fait. Hein? Et dans Actes chapitre 4, à la fin du chapitre. Bon, à la suite du martyre d'Étienne, eh bien, tout d'un coup, il y a eu une dispersion à cause de la persécution, une dispersion des chrétiens. Ils ont été dans tous les sens. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à Antioche. Antioche était au croisement de voies romaines. Donc, quand on montait Palestine, on montait vers le nord pour aller vers Rome, ça passait par là. Et puis, pour aller vers l'Orient, ça partait de là. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Attakia, hein, c'est en Turquie, c'est juste à la limite de la Turquie et de la Syrie. C'était une ville très commerçante et il y avait des gens de partout. Hein, le commerce a toujours toutes les nationalités. Et donc c'était une ville très cosmopolite. Mais en plus, c'était une ville où il y avait une communauté juive, justement parce que là, ils avaient les mêmes droits que les autres. C'était rare, plutôt rare que les juifs aillent quelque part, ils aient les mêmes droits que tous les autres. Mais là, ils avaient les mêmes droits que tous les autres, donc il y avait, et certainement des disciples ont été par là, mais il y en a qui ont prêché, qui ont annoncé la bonne nouvelle à des païens, à des grecs, il nous dit. Et, extraordinaire, un grand nombre ont cru. Beaucoup de ces grecs ont cru. Et le bruit de ce qui se passe à Antioche est arrivé jusqu'à Jérusalem. Et au lieu d'envoyer des apôtres pour leur dire, écoutez, c'est tout faux, vous faites ça de travers, c'est pas bien. Maintenant, ils envoient qui ? Barnabas. Barnabas, le fils de l'exhortation, le fils de l'encouragement, le fils de la consolation, c'est lui qu'ils envoient pour leur apporter quelque chose. Heureusement qu'il y avait eu l'expérience de Corneille avant. et que Pierre a pu parler à l'Église, aux apôtres de l'Église, et tous les apôtres ont pu corriger, être réformés sur ce niveau-là. Et il nous dit dans Actes chapitre 10, verset 23, il dit « Il les a encouragés, les exhortés à rester attachés à Jésus-Christ, au Seigneur. » Et puis, Barnabas est là, qui cherche toujours le bien des autres, qui est toujours sensible au bien des autres. Et il dit « Mais ces hommes ont besoin d'enseignement. » C'est des Grecs. Ils n'ont pas tout l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas toute cette connaissance-là. Et c'est vrai que c'est basé sur l'Ancien Testament, à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament, hein, donc il n'y avait que l'Ancien Testament. Et ces gens, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas grandi là-dedans, ils ne manipulent pas l'Ancien Testament. Il dit, moi je connais quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament. Il s'appelle Saul. Et il est, la dernière fois, il est à Tarse. Et donc Barnabas va aller à Tarse, il va le chercher. Il dit, Tarse, ce n'était pas une petite ville non plus. Comment vous commencez à chercher ? Il commence à réfléchir, il dit ah, c'est vrai qu'il était faiseur de tentes. Mais je vais aller dans le quartier des faiseurs de tentes. Je vais tourner par là-bas. Vous ne connaissez pas un Saul qui a fait des études à Jérusalem, et de grandes études, et qui est revenu ? Oui, il travaille là, au fond de l'atelier, là. Et il le trouve. Il dit Saul, laisse tomber. Viens, on a besoin de toi. Viens à Antioche. On a besoin de tes connaissances. Surtout, entre-temps, Paul, il avait tout redigéré, tout l'Ancien Testament, et il le voyait bien autrement. Donc, lui, il était idéal pour venir à Antioche. Mais oui, mais il n'y avait que Barnabas qui puisse aller où le trouver. Barnabas, c'était celui qui, quand Saul s'est converti, et puis qui a dû fuir Damas, et qui est venu à Jérusalem, les apôtres, ils avaient peur de le voir. Et c'est Barnabas qui a dit, n'avez pas peur de lui. Non, c'est du vrai, vous pouvez avoir confiance. Barnabas, c'est le gars qui est toujours en train de faire le lien, en train de rapprocher, en train d'encourager, il cherche le besoin. C'est un homme extraordinaire, il en faudrait plus, n'est-ce pas? Il ne s'appelle pas apôtre, il ne s'appelle pas... Mais il a un travail extraordinaire. Et c'est lui qui est allé chercher Saul, il a dit, viens, on a besoin de toi, Antioche, viens. Tu vas enseigner là. Je serai avec toi, t'es pas peur, je t'accompagne, on sera à deux. Et pendant une année, ils sont à deux. Ils enseignent. Barnabas apporte ce qu'il peut apporter, Saul apporte les connaissances qu'il a, et à deux, eh ben, ils enrichissent l'Église. Et justement, on parle de Saul. C'est le troisième. Saul, c'était l'homme qu'il fallait transformer parce que quand Dieu a commencé à traiter avec lui, c'était pas du tout un saint. Saul apparaît, la première fois qu'on voit son nom, c'est au moment de la lapidation d'Étienne. Et ben, c'est à lui qu'on confie les manteaux pendant que les autres lapident. Et il nous dit que lui, il a approuvé. Il a approuvé le traitement qu'a reçu Étienne. Bon, il était là et je pense qu'il a entendu ce qu'Étienne a dit aussi. Je pense que ça a travaillé un peu dans son cœur. D'abord, c'est travaillé le contraire, ça l'a fait réagir. Et il est devenu violent, il a persécuté l'Église, il a été chercher femmes et enfants et hommes, il les a mis en prison. Ça va toujours rester dans sa mémoire. Et il dira même, je suis le pire de tous parce que j'ai persécuté l'Église tout de suite. Pour lui, c'était le plus grand crime. Il sait combien il était violent. La Bible ne nous raconte pas tout ce qu'ils ont souffert. Le but n'est pas de décrire les martyrs. Le but est de parler de Jésus-Christ. Mais le truc, c'est que si on avait l'histoire du comportement, vous pouvez imaginer aujourd'hui, vous savez, certains endroits où on ne traite pas les gens trop bien, et la prison, ce n'était pas Mérogis, hein, Fleury-Mérogis, où on a la télé, et puis on a le salon, et du basket, et puis on fait des petits travaux à côté. Non, c'était autre chose à l'époque. Et Saul, c'est ce genre d'homme. Et il a... Il a soit il les a pris en prison, ou soit ils se sont sauvés, il n'y avait plus personne à prendre à Jérusalem. Quand on pense aux 3000 plus 5000, et puis il n'y a plus personne. Il a vraiment mis le bazar là-dedans. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il obtient l'autorisation d'aller chercher à Damas des partisans de la nouvelle doctrine. Il dit, il faut que j'aille trouver des gens là-bas, des partisans de la nouvelle doctrine, et je vais les ramener pour les mettre en prison. Il a l'autorisation, il y va, il est en chemin, et il est en train de penser, hein, il faut se remonter, hein. C'est comme pour un match, psychologiquement, il faut s'y mettre. Ben, lui, il est en train de se préparer pour que quand il arrive à Damas, il puisse y aller de suite. Parce que c'est l'effet de surprise qui est important. Et en chemin, c'est là où le Seigneur parle. Vous connaissez, je vous laisse lire Actes chapitre 9, comment le Seigneur lui parle. Et le Seigneur, quand il dit, c'est qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Celui que... Il y a des gens qui sont en train de te dire que je suis ressuscité et tu es en train de les mettre en prison parce qu'ils disent que je suis ressuscité. Eh bien, c'est moi. Ça doit avoir un drôle d'effet. Hein. Vous êtes convaincu que les choses n'existent pas et tout d'un coup, elle est là. Et surtout que vous étiez en train de la détruire et puis surtout que tout d'un coup, tu te rends compte, hein, quand c'est comme le grand garçon à l'école maternelle, il est en train de bousculer tous les autres, et puis tout d'un coup, il y a un grand qui l'attrape et dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, lui, il se croyait fort, mais tout d'un coup, il se trouve, il y a quelqu'un de plus fort que lui qui l'attrape. Vous comprenez l'effet, hein? Et pire que ça. Et je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'envoie à terre, ou c'est lui qui tombe à terre, ou comment, mais il est à terre. Là, il n'est pas fier de lui. Et bon, je vous laisse lire les détails, hein, parce que ce n'est pas pour moi pour vous raconter l'histoire ce matin. Mais il rentre, et quand il arrive à Damas, après 3 jours de jeûne et de prière, c'est un homme transformé. Et il commence à prêcher le Christ qu'il combattait. Les gens, ils sont là, ils n'entendent pas, ils se disent, mais attends, c'est vrai? Non, mais est-ce que j'entends? Et finalement, on veut le prendre prisonnier, et il échappe par une corbeille dessus des murs, et il part à Jérusalem. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il arrive à Jérusalem, il essaie de s'approcher des apôtres, mais eux le fuient, et c'est Barnabas qui le reçoit, et Barnabas qui l'introduit, et c'est là où il raconte son témoignage et tout ça, et il dit, bon d'accord, très bien. Mais le fait que Saul soit là, ça commence à attirer des problèmes, parce qu'il y a des hellénistes qui disent, bon, celui-là, il faut qu'on le taise, bon, c'est un traître, il faut qu'on l'élimine. Et ils sont en train de persécuter. Alors, les apôtres, ils disent, écoutez, Saul, tu sais quoi? Je crois que ce serait bien que tu partes. Donc, on l'accompagne à Césarée. Puis après, de Césarée, on lui fait rentrer à Tarse. Il dit, écoute, tu rentres chez toi. Et puis, dès qu'il rentre chez lui, les choses se calment. Hein, vous lisez le passage. Il dit, tout d'un coup, c'est la paix. En Judée, il n'y a plus de persécution. Tout est calme. Ah, c'est bien. Et oui, c'est le confort pour vous. Mais vous avez un homme avec un potentiel extraordinaire, vous l'avez mis dans un placard. Et l'église de Jésus-Christ, et si elle n'avait pas eu l'apôtre Paul, où serions-nous? Hein? Eux l'ont mis dans un placard et pour avoir la paix. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Barnabas qui va le chercher dans le placard et qui le ramène et qui le met à l'œuvre. Il dit, Dieu t'est préparé. Parce que quand Ananias est venu pour prier sur Saul, eh bien, le Seigneur avait dit à Ananias, il a dit, Ananias, écoute, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, 15. Dieu avait un plan pour lui. Il dit oui, pour vous, il n'avait pas l'air, il était plus un problème. Mais moi, j'ai un plan. Et moi, les plans, je les réalise. Et Dieu prend des éléments pas possibles pour en faire des serviteurs de Dieu. Pierre a subi la réformation de sa pensée. Jérusalem, les apôtres sont prêts à croire au salut des païens. C'est bien, on n'est pas contre. Mais Barnabas s'y va, les encourager, et puis il va chercher Paul, Saul, il s'appelle encore Saul, il va enseigner pendant un an dans l'église d'Antioche. Et au bout d'un an, l'Esprit va parler à l'église, il va dire, écoutez, mettez-moi à part cette équipe-là. Barnabas et Saul. Et Barnabas et Saul vont être utilisés par Dieu. Il y a eu toute la préparation pour arriver jusque-là. Mais maintenant, c'est une nouvelle orientation, épanouissement. L'Évangile va aller par tout le monde. Et nous en sommes les bénéficiaires. À ce moment-là, il y a une orientation de l'Église primitive et qui n'a pas cessé depuis. Dieu a agi chez Pierre, Dieu a agi avec Barnabas, Dieu a agi chez Saul. Il transforme ces hommes, ils sont chacun très différents, chacun est unique, tempérament différent, tout. Mais Dieu rassemble ces hommes-là pour que l'Église ait une autre orientation, qui est une bénédiction pour nous, qui nous permet, nous, d'être inclus dans le plan du salut de Dieu et de le savoir. Dieu, et finalement, ils ne font, c'est qu'à Antioche que la mission que Jésus a donnée aux apôtres commence à se réaliser. Il a dit, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et à Actes chapitre 1, verset 9, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, et sur l'extrémité de la terre. Et c'est à partir de ce moment-là. Mais il y avait un travail à faire. Mais Dieu a fait le travail. Jésus-Christ a fait le travail. Le Saint-Esprit a fait son œuvre dans les cœurs. Il a été chacun où il était. Et il rassemble tout cela pour donner cette orientation à l'Église primitive. Et qui est une caractéristique. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui témoigne, qui évangélise. Et quand elle cesse de l'être, elle meurt. Maintenant que nous comprenons ce passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, où il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Il dit en fait, vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes très différents. Mais l'Esprit de Dieu, il veut pas seulement me sauver, mais il veut agir en moi, transformer mon intelligence, selon Romains 12, 1 et 2, pour que j'aie une nouvelle pensée, la pensée de Dieu, je pensais penser après lui, et me donner un ministère, un rôle, une fonction dans l'Église, afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Il dit, vous avez été créés. En Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas des choses gentilles. Ce n'est pas ce que moi je trouve bon pour moi. Les bonnes œuvres que je dois mettre en pratique, ce sont celles qu'il a préparées pour moi. Pour Barnabas, c'est l'exhortation, la consolation. Pour Pierre, c'était l'annonce de la bonne nouvelle. Pour Saul, c'était de le porter aux païens. Il a dit, moi je suis l'apôtre des païens, comme Pierre est l'apôtre du juif. Si Saul avait vécu sa vie chrétienne, mais à faire autre chose, il ne serait pas en train de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas une question de Mais je fais que des bonnes choses. Mais est-ce que tu fais ce qu'il a préparé pour toi? Est-ce que tu as ta place? Tu es en train de remplir ton rôle? Une église, ce n'est pas un sac rempli de personnes avec des dons. C'est un corps avec des membres qui fonctionnent ensemble afin d'accomplir une œuvre. Et donc, Philippiens 1, 6 qui nous dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, oh, pas demain, le jour de Jésus-Christ. » Mais il la rendra parfaite. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Écoutez, quand je regarde l'Église primitive et je vois ce qu'il a pu faire avec des gens comme Pierre, des gens comme Barnabas encore, et il a l'air d'être un gars pas mal, et des gens comme Saul, je dis, ben, il y a de l'espoir pour moi, n'est-ce pas? Et Jésus n'a pas changé. Et la manière de faire de l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Et il a un plan. Et il veut le réaliser. Nous sommes à Fréjus, il y a un travail à faire. Et il veut se servir de nous tous. Il n'y en a pas, c'est pas le pasteur qui tire la charrette, c'est tous qui tireront la charrette. Afin que des âmes soient sauvées et soient formées. Donc c'est d'abord une œuvre en nous, hein, avant que Saul puisse aller à Éphèse, à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe et tout ça. Il fallait qu'il y ait un travail qui se fasse dans des hommes déjà sur place. Et afin qu'il y ait un travail qui se fasse ailleurs, il faut déjà le travail qui se fasse chez nous. De transformation, de réformation, de recrutement. Et que le Seigneur fasse son œuvre. Alors, la question, c'est sommes-nous disposés et sommes-nous disponibles? Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour ces textes que tu as conservés pour notre enseignement. Et Seigneur, c'est là, c'est pour nous, afin de pouvoir tirer les leçons nécessaires. C'est-à-dire, tout comme tu as confié une œuvre à ces apôtres, et une œuvre qui allait bien plus loin que ce qu'ils pouvaient imaginer ou penser. Et ils n'avaient pas besoin de le penser pour que toi, tu le prépares. Mais tu t'es servi d'eux, et tu t'es servi des uns et des autres pour que cette œuvre s'accomplisse. Et Seigneur, tu peux faire exactement pareil. Tu es le même Dieu. Tu as les mêmes capacités. Au bout de 2000 ans, tu n'as pas vieilli, toi. Et tu es le même. Et Père, nous voulons te faire confiance. S'il y a des choses à changer dans nos pensées, dans notre manière de voir, notre manière de percevoir, notre manière d'interpréter, eh bien, réforme notre pensée comme tu as fait pour Pierre. S'il y a un rôle d'exhortation, de consolation, d'encouragement, que nous avons besoin d'exercer les uns sur les autres, ben Seigneur, comme Barnabas, utilise-nous. Et si nous avons besoin d'être sauvés et réorientés comme Saul, eh bien, que tu le fasses aussi. Afin que ton œuvre, ton plan se réalise. Parce que celui qui a commencé en nous, dans cette église, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ et selon la pensée qu'il a mise dans notre cœur, par ton esprit. Amen.